RTVFM.
RTVFM. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver toujours sur la première radio du Comte à Venessin, je dirais même du Vaucluse, RTVFM, pour votre émission sportive de la semaine, RTV Sport. Bien sûr, je suis avec mes deux animateurs préférés, Valérie. Salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Et Alexandre, salut.
Salut Lionel, bonsoir à tous.
Ça va mieux la santé ?
Ça va beaucoup mieux, ouais, merci.
Ouais, parce que t'étais un petit peu malade.
C'est ça, j'étais un peu malade, donc c'est pour ça que je suis pas venu lundi dernier. Et là, je suis en pleine forme.
Ça se voit.
Ouais.
T'as le poil soyeux, t'es...
Ah mais, en plus, j'ai passé un super week-end, il y a eu un très gros week-end sportif, donc j'ai passé...
Ah mais j'imagine.
Donc là, je suis en pleine forme.
Voilà, avec de très 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 bons résultats.
Ouais.
Des super perfs.
Ben, on va pouvoir en parler. Il y a Bruno à la technique. Salut Bruno.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va, en pleine forme.
Bon, tant mieux. Alors aujourd'hui, on va tout d'abord faire du triathlon. Bon, c'est vrai que c'est pas trop la période. Justement, on va en parler avec le président du club de Carpentras, le Ventoux Triathlon Club de Carpentras, en la personne d'Éric Olive. Salut Éric.
Salut, bonsoir à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, il y a plein de choses à dire parce qu'il va y avoir un grand triathlon au mois de juin. Bien sûr, on se reverra d'ici là, mais ça permettra aussi de donner quelques informations dessus. Et ensuite, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu au mois de... Ça a commencé... mi-décembre et ça s'est terminé fin janvier, le premier festival du film sportif de Vaucluse intitulé 84 nuances de sport. On a le lauréat de Carpentras, il s'agit de Stéphane Mallet. Salut Steph.
Bonsoir à tous.
Un grand sportif Stéphane, on a eu l'occasion de te recevoir à plusieurs reprises pour des triathlons, pour des courses un petit peu hors normes, hein, marathon, triathlon, ce qu'on appelle l'Ironman, on en parlera tout à l'heure. Donc un vrai sportif, et tu as été récompensé justement lors de ce festival.
Voilà, lors de la diffusion à Carpentras. Alors après, je ne sais pas si il faut confirmer si la diffusion a eu lieu à Vaison-la-Romaine, je ne suis pas sûr.
Ben, on se renseignera effectivement
auprès des autorités compétentes.
Du président Roland Davot, et puis qu'on salue, parce qu'il était à votre place la semaine dernière justement. Donc voilà, donc on aura l'occasion justement de parler de triathlon et effectivement de ce premier festival du film qui met en valeur le Vaucluse et bien sûr le tissu sportif local. Valérie, on va commencer par toi avec les résultats sportifs.
Oui, on va commencer.
Il y en a pas mal en plus, non ?
J'en ai quelques-uns. J'ai limité, hein, parce que comme on va, à mon avis, parler de rugby à 13, de hand...
Bah, donc, surtout de hand.
Voilà. Hein,
donc, même si le rugby à 13, effectivement, a fait parler de lui ce week-end.
C'est pour ça que je vais un peu limiter. Je vais commencer par le hand Mazan. Chez les moins de 16 ans Méditerranée, Mazan donc rencontré Bouc Belair sur son plancher. Et Mazan s'est imposé 28 à 25. Ça a été un match très difficile, mais la victoire était là, donc c'est le principal. En moins de 16 ans, équipe 2, Mazan donc rencontré Bolène, 14 à 7. En Coupe de Provence, l'Entente Carpentras-Mazan, Ventoux Conta handball s'est incliné face à Orange, malheureusement sur le score de 26 à 14, et est éliminé de la Coupe de Provence. Dommage parce que, bon, jusqu'à présent, l'entente Carpentras-Mazan faisait une excellente prestation. En match de préparation, chez les moins de 18 ans, donc elle s'impose sur leur parquet, sur les parquets de Monteux, 36 à 26, contre une équipe de pré-nationale incomplète. Et la Nationale 3, elle s'est imposée à Port-de-Bouc, 31 à 16, mais face à une équipe, là aussi, amoindrie et mixte en Nationale 2 et pré-nationale. Là, je le répète, c'était juste un match de préparation. En basket avec l'ABC Carpentras en U11 garçons, les Carpentrassiens donc se déplaçaient à Tarascon et se sont inclinés 29 à 30. En U13 filles, c'est Carpentras qui recevait Cavaillon et là encore, les Carpentrassiennes se sont inclinées 25 à 29. En U13 garçons, l'ABC Carpentras donc recevait Château-Renard et là, elles se sont largement imposées 62 à 9. En U15, filles, Carpentras se déplaçait à Sorgues. Et là encore, Carpentras a perdu 41 à 47. En senior garçon, les Carpentrassiens donc recevaient Senas. Et là, Carpentras a gagné 65 à 57. Et enfin, en senior région filles, Carpentras recevait Haïde-Rousset. Se sont largement imposés 83 à 44. Je passe au tir à l'arc avec les archers de Saint-Siffrin que nous saluons. Donc, 11 archers encore du club de Carpentras ont fait le déplacement pour participer au concours de tir en salle organisé ce week-end par le club de Morières. En senior femme, Claire Passe confirme sa très belle saison et termine première et Christelle Sonto troisième. Dans la catégorie minime, c'est Mathieu Puig qui est second. Chez les cadets, Émeric Jespierre termine sur la première marche du podium. Julien Sanz, lui, est deuxième et Alexis Santon, quatrième. En senior homme, Benoît Bétron donc termine au pied du podium, c'est-à-dire à la quatrième place, alors que Christophe Sub est neuvième. Alors, quant au super vétéran, malgré une belle performance, Gérard Nari n'est que quatrième, suivi par Jean-François Auclair, cinquième, et dans la même catégorie, mais en arc à poulie. Jacques Vidal est sixième. Donc l'équipe masculine composée de Benoît Bétron, Émeric Jespierre, Gérard Nari et Jean-François Auclair est deuxième. Oui. Donc la semaine prochaine, c'est la dernière compétition à Lille-sur-la-Sorgue pour se qualifier pour les championnats de Ligue PACA qui se dérouleront les 11 et 12 février à Marignane.
Eh bien, on leur souhaite bonne chance.
Voilà. Là, j'ai du BMX aussi. Il y avait le championnat de Vaucluse. Je vais donner que les résultats des premiers. Alors, sachant qu'on a déjà reçu le club de Pernes, le club de Carpentras et le club de Sarrian, donc je vais uniquement limiter au premier de ces trois clubs. Donc, son champion de Vaucluse, en pré-licencié Bablon de Carpentras, en poussine La Jeune Solaire de Pernes, Les Fontaines, en poussin Kama de Sarrian, en poussin 2, c'est Ventimiglia de Pernes. En pupille-fille, Lazare de Pernes. En poussin, en Benjamin, c'est Mademoiselle Décor. En cadet, Pinsard de Sarrian. En dame de plus de 15 ans, c'est Martinez de Pernes que l'on connaît bien. En élite dame, Bernard de Pernes. En cruisère 17-29, c'est Rougy de Sarrian. En cruisière 30-39 ans, c'est Décor de Carpentras. Et enfin, je vais parler du mondial de handball. Ah bah, de la superbe finale, bah oui, France-Norvège, oui, 33-26, sixième. Alors, moi, j'ai regardé le premier mi-temps.
Parce que t'es quand même une spécialiste du handball, quand même.
Première mi-temps, j'ai été assez déçu de la prestation de la France au niveau de la défense. C'est une défense carrément en limite de la zone, c'était pas...
D'ailleurs, ils étaient un peu stressés.
Non, je pense que c'est... ils n'ont pas réussi à voir le jeu. Il y avait une défense beaucoup trop basse. Et il fallait monter, ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, d'ailleurs.
Ouais. Et en fin de première mi-temps aussi.
Voilà, d'ailleurs. En fin de première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps, et où là, on a vu que ça a cartonné, quoi. Non seulement les Norvégiens n'arrivaient pas à mettre de but, mais en plus, en contre-attaque, automatiquement, ils pêchaient des balles et ils partaient en contre-attaque. Ça a été un match, deuxième mi-temps, très intéressant. Mais pour moi, la première mi-temps... Je l'ai donné largement aux Norvégiens.
Première mi-temps, on a eu du mal. On s'est bien rattrapé en fin. Parce qu'en fin, on a quand même réussi à
mener d'un point au buzzer. Et heureusement aussi qu'on avait un excellent gardien de but.
Ah ouais, Gérard,
c'est le problème de la première mi-temps d'ailleurs. Omeyer est passé carrément à côté de son match.
Tout à fait, il s'est passé de tous les côtés avec Omeyer. C'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs mi-première mi-temps, Omeyer est sorti en laissant sa place à Gérard. À ce moment-là,
on avait l'impression qu'il n'y avait qu'une seule équipe presque quand les Français. Enfin, par contre, il faut dire que un gros chapeau au gardien. Norvégien, il a fait un match exceptionnel.
Et il était fort.
D'ailleurs, ils disent surtout le long du championnat, il a fait mal.
Il a fait mal,
Il était énorme.
Et notre gardien français, là, donc Gérard, il a été élu.
Vincent Gérard.
Gérard, il a été élu MVP, enfin, meilleur gardien de. Du mondial. Donc, parce qu'il a fait des très bonnes prestations, que ce soit en demi-finale, où il avait été quand même très bon. Et il nous a carrément sauvé la finale.
Mais je crois qu'au niveau de ses stats, c'est plus de 35%, ce qui est très très rare pour un gardien, surtout à ce niveau-là.
Surtout en handball.
Et Steph, t'as regardé un peu ?
Oui, bien sûr.
Et alors, t'en as pensé quoi, toi ?
Bah, je partage un peu votre avis, sauf que moi, c'est vrai que on a toujours été mené au score, on n'a jamais été
en première
trop
mi-temps,
distancé
ou
en première mi-temps. Et puis, juste avant la fin de la première mi-temps, on a égalisé et on a mis ce but qui nous a permis de
repartir en tête en deuxième mi-temps.
Et à partir de ce moment-là, on n'a jamais perdu la tête.
Voilà. Au contraire, on a fait plus 3, plus 4, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6.
Mais bon, je pense qu'à ce niveau-là...
chapeau bas quand même. Mais enfin, on a quand même une équipe, peut-être c'est au niveau sportif, parce que c'est la meilleure équipe au monde, 6 fois championne du monde.
C'est énorme.
Omeyer, il est 5 fois champion du monde quand même. Donc sur la durée...
Après, tu vois, on aurait joué, comme on a joué hier contre la Suède, on était mort. Parce que franchement, on a commencé très très mal. Et en fait, ensuite, la Suède est quand même un niveau nettement supérieur à la Norvège, parce que la Norvège s'est qualifiée à la limite. Hein.
Bah, oui, Norvège, c'était une équipe VIP en fait, on a invité.
Non, mais surtout à la demi-finale, il y avait un point d'écart et ça s'est joué vraiment à la fin du match.
Oui, mais enfin à ce niveau-là, bon, quelle que soit l'équipe, hein, quand on arrive en finale ou n'importe quoi, ils ont d'excellents jeunes. La Norvège, hein, c'est des équipes qui n'ont rien à perdre. Hein, c'était leur premier championnat du monde, hein, je crois.
Et ils arrivent
donc
déjà
ils
en
n'ont
finale.
Vraiment rien à perdre. Ils arrivent en finale.
Ah, ils avaient des sacrés. Ils avaient des Golgothes.
Le Golgothe. Oui, celui-là est tiré de loin. Bah d'ailleurs, en deuxième mi-temps, il a mis quelques buts, mais beaucoup moins qu'en première mi-temps, parce que justement, on montait pour l'intercepter, pour lui éviter de tirer ou de faire des passes aux uns et aux autres. Hein.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est plus Karabatic, dans le sens où quand on a galéré en première mi-temps, vraiment, ça se voyait qu'on galérait. En attaque, c'est quasiment que lui qui marquait, ou alors les autres en jet de 7 mètres. Mais quand on regarde les phases d'attaque, c'était quasiment que lui qui jouait. Et on voit que sur les temps faibles, on a besoin de joueurs comme Karabatic, quoi. Il a eu une influence en première mi-temps, un peu moins en seconde, j'ai trouvé. Parce que l'équipe
de France. Ils l'ont sorti déjà pour se reposer.
Ils l'ont sorti, et puis l'équipe de France allait mieux en seconde mi-temps. Donc il a eu beaucoup moins de travail à faire. Et quand on voit la dose d'effort qu'il a faite, rien que les 20 premières minutes de la première mi-temps qui ont été très dures pour l'équipe de France, franchement il a fait un match incroyable aussi.
Heureusement qu'il y a les cadres justement de l'équipe de France qui ont été là.
Et enfin, les deux entraîneurs principaux, c'est quand même des champions du monde, faut pas l'oublier. Hein. Voilà, ex-champion du monde, mais bon, pour moi ils sont toujours champions du monde. Voilà, c'était franchement deux des meilleurs joueurs au monde.
Ouais, mais c'est pas parce que t'es champion du monde que
t'es
un bon entraîneur.
Oui, mais ils ont une vue du match de suite. Je veux dire lors des arrêts, des temps morts. De suite, ils savent remettre leur joueur, sortir le joueur qui va pas, remettre un joueur. On parle de Karabatic. Et on parle aussi, moi je vais parler de la première mi-temps. Ou même de la deuxième mi-temps. Le jeu des Français. Ça s'est passé également sur la deuxième mi-temps. Le jeu des Norvégiens était beaucoup plus speed que le jeu des Français. Le Français, à chaque fois, donc ralentissait, prenait le temps de faire ses actions que le Norvégien, quand il arrivait, bang, boum, ça y est, il y avait un tir, quoi, à peine arrivé.
Ils ont
tiré de très loin.
Ils
avaient des bras très puissants. On a des bras très puissants, mais on n'a pas tellement utilisé nos bras puissants. On a essentiellement fait du jeu, c'est-à-dire préparer nos actions par Karabatic, donc aussi, en l'occurrence. Donc voilà, moi, je me suis plus régalé sur un jeu norvégien que sur le jeu français. Mais
les contre-attaques qu'on a faites, elles étaient magnifiques. Hein. Ouais. Moi, le dernier but qu'on a mis en première mi-temps, il était juste magnifique, ce but. Hein. On a fait une contre-attaque juste incroyable. Ça a été un but déjà magnifique. Donc nos contre-attaques, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, ont été très bonnes dans tous les cas.
De toute façon, on a eu d'excellents joueurs. Hein.
Je voudrais tirer quand même mon chapeau à la Fédération internationale de hand. Mm-hmm. Parce que grâce à la nouvelle règle qu'ils ont introduite en juin dernier sur le fait que le gardien pouvait sortir et ça a augmenté, on va dire, la vitesse de jeu. Parce que pendant les phases qu'on n'a pas pu forcément voir parce qu'on n'avait pas forcément billet de sport, mais il y avait, je ne sais plus quelle équipe qui a rencontré la France, qui a joué justement avec ce système-là, à savoir, ils sortent le gardien. Ben non, parce que la Suède, c'était en quart de finale.
Alors c'est en demi-finale que ça. Aussi, on a eu pas mal de choses.
Non, c'était pendant les phases qualificatives.
Non, mais en fait, de toute façon, même durant la demi-finale et la quart de finale, ils ont fait la même chose.
Oui, sauf que les Français, eux, à ce moment-là, ils ont compris le système, alors que pendant les phases qualificatives, ils ont été mis en difficulté. Parce que le gardien sortait, ils étaient en surnombre, forcément, parce que t'as un joueur de plus. Et c'est vrai que cette nouvelle règle permet de créer du dynamisme. Et je pense que dans d'autres sports, ils devraient s'inspirer de ça pour pouvoir rendre le jeu dynamique. Ça, c'est indéniable. Bon, mais en tout cas, 6 fois champion du monde.
D'ailleurs, 6e étoile. À un moment donné, au milieu de la deuxième mi-temps, à peu près, le gardien s'est transformé en défenseur.
Tout à fait. T'as vu un peu aussi même Gérard.
Spectaculaire.
L'interception de la balle.
Vision du jeu, interception de la balle.
Bon, après, à ce moment-là, ils avaient.
On voit le Norvégien, il est complètement. Il ne s'attendait pas à ça. Quoi.
Il a coupé la trajectoire.
Quand on voit le ralenti, c'est.
Bon, alors moi, je vais vous couper la chic parce qu'on va faire une petite pause musicale. Et puis, je crois aussi qu'après, on a un peu de rugby à 13 parce qu'il y a de bons résultats.
Il y a eu de très bons résultats pour Carpentras 13, déjà. Ouais. Et de très bons résultats pour l'ensemble du comité Vaucluse.
Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après ce pronostic.
grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi t'es un peu trop rêveur. Petit tu as un trop gros appétit, la réalité est fanée sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon épreuve. L'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAU se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, ma famille, ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré vif c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
Avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc juste après cette pause musicale pour permettre à nos invités de se remettre de cette victoire, hein, parce qu'on bien sûr on l'a fêté dans les studios de l'équipe de France de hand, sixième fois championne du monde. On va continuer avec les résultats, Alexandre. Hein, parce qu'on a le rugby à 13 qui a fait un super
c'est
score
ça.
Ce week-end.
Alors ce week-end il y a eu déjà beaucoup de résultats au niveau du Vaucluse. Déjà on va commencer avec les U15. Donc déjà Salon a fait 18-18 avec Avignon. Carpentras en U15 s'est largement imposé contre Marseille 64-6. Entraigue en U15 s'est imposé 70-0 contre Apt. Ça c'est logique quand on connaît Apt. En U17, Carpentras 13, affronter Marseille, match important pour la qualification, hein, pour Carpentras, pour la qualification en championnat de France 2e division. Carpentras s'est imposé 18-0. Donc ça a été un match, alors le score est bas, mais parce qu'en fait c'est très compliqué parce que le match s'est arrêté avant la fin. En fait l'arbitre a arrêté le match avant la fin parce que le Marseille, ils ont voulu se battre en fait tout simplement. Tous les joueurs de Marseille, ils ont pété un câble et ils ont voulu frapper tout le monde. Donc moi j'étais sur le stade, donc j'ai pas joué, mais je regardais mon équipe et c'était n'importe quoi. Donc du coup bah l'arbitre a décidé de rompre, de mettre fin au match. Donc du coup Carpentras
c'est animé quand même,
beau
match.
Ouais, c'est sympa comme sport quand même. C'est pas ça comme ça.
Je m'attendais pas à un match comme ça, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que Marseille soit aussi violent. C'est la première fois que je vois ça. Le match, c'est devenu n'importe quoi.
Non, mais faut être sympa avec eux, surtout. Faut pas les insulter, comme quoi l'OM, bah, ils sont
fait,
pas bons en foot.
En fait, comme il...
Faut pas dire ça.
En fait, le score 18-0, c'était le score à la mi-temps. Faut savoir que c'est le score à la mi-temps. Et en fait, en deuxième mi-temps, Marseille s'est pris un carton rouge. Parce qu'ils ont fait un mauvais geste. Ils ont donné un coup de poing devant l'arbitre. Et après, Marseille a complètement pété un câble. Alors, j'ai pas compris. Ils ont commencé à se jeter, mais vraiment se jeter, on aurait dit des animaux. Genre sur tous les joueurs de Carpentras et a commencé à les frapper. Donc du coup bah les entraîneurs se sont mêlés, ont essayé d'un peu de séparer tout le monde. Donc ça a été un match
je suis majeux.
Oui, c'est du sport, donc, du spectacle.
Donc
non, mais et le pire, ils sont en pleine puberté à cet âge.
Et le pire, c'est que c'était un match, franchement, c'était un match magnifique. Ouais. Carpentras a marqué un essai.
On l'imagine.
Carpentras a marqué un essai de 80 mètres quand même, donc faut le dire.
Ouais.
Faut le dire. Et donc Carpentras gagne un match très important et donc qualifié pour la seconde division de championnat de France. Donc il y a encore un match contre Lyon qui arrive ce week-end. En U17 encore, Avignon recevait Entraigues-Lambesque. Bon, ils se sont largement imposés 62-10. En Élite 1, Avignon s'impose contre Villeneuve dans la douleur 38-26. Et en Élite 2, c'est le résultat du week-end vraiment pour Carpentras, c'est la performance. En Élite 2, Carpentras se déplace à Villefranche équipe première au classement. Et Carpentras s'est imposé 35-20 à l'extérieur. Donc c'est une victoire très très bonne pour Carpentras.
Très importante.
Très importante. Et donc c'est ça. Après Saint-Gaudens, ce qui a été un match un peu compliqué.
Oui. Ils sont pas au même niveau non plus.
Qui a été serré, mais au final, ils ont perdu le jeu.
En fait, j'ai assisté au match. Le score ne reflète pas la physionomie du match. Hein.
Oui, le score ne reflète
pas. À Saint-Gaudens, t'as été voir ?
Non, c'était à Carpentras.
Ouais, le match contre Saint-Gaudens.
C'était un coup de bordel.
Il méritait de gagner, à ton avis ?
Peut-être qu'ils ne méritaient pas de gagner, mais.
Ils ont fait un bon match quand même.
Voilà, ils ont.
Manqué de chance.
Pas de chance, mais je pense qu'à un moment donné, s'ils avaient eu un peu de chance, oui, peut-être de marquer un essai ou de passer devant, un peu comme hier au handball, je crois que Saint-Gaudens aurait plié boutique. Parce
ouais,
que,
et puis le score n'était pas si large en plus.
Voilà, c'est 30-14, mais ils ont pris deux essais à la fin.
Mais comme ils disent.
Ils ont recollé au score et.
Une baisse de régime encore, il y avait.
Oui, bon, effectivement.
Parce qu'on avait, reçu.
Régime, mais
les temps forts, temps faibles.
Il y a aussi une baisse de. Il y a une différence de niveau, mais.
Oui, bon, bien sûr.
Voilà.
Ça, c'est sûr, mais.
Mais je pense
bon
qu'on.
Match de
il y a 15 jours qu'on avait reçu le rugby,
oui,
il y a 13, et justement, nous avait parlé de ce match où ils avaient encore eu une petite baisse de régime. Toujours pareil dans le dernier quart d'heure qui avait fait que, et après ils ont eu un petit sursaut si je me souviens bien juste à la fin du match qui malheureusement n'a pas suffi, mais c'était propre à l'équipe de Carpentras, mais là franchement l'équipe première, et je me rappelle qu'ils disaient on ne les battra jamais, mais tu vois, regarde.
Gagner Villefranche, honnêtement, c'était peut-être pas l'objectif. Je pense qu'à mon avis l'objectif c'était de prendre le moins de points possible,
bah oui.
Et je pense que Villefranche a dû arriver avec un excès de confiance monumental en se disant que comme ils ont gagné à Carpentras, on va les recevoir et on va leur mettre 40 points, et au final ils se sont fait surprendre et donc Carpentras gagne, donc c'est une super nouvelle pour Carpentras. Je pense qu'à mon avis
il y aura peut-être un petit déclic pour Carpentras maintenant.
Je pense que c'est un déclic, et je pense qu'à mon avis que le président doit être très 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 content.
Bah oui, j'imagine.
Bah, tel que je le connais.
Tu regardes un peu le rugby à 13, Eric, ou pas toi?
Non, pas trop. Je suis plus 15, moi. J'ai 12 ans de rugby à 15. Et donc, j'attends avec impatience
le tournoi destination.
Et puis, la meilleure équipe de France, Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand,
bien sûr, pour la Coupe d'Europe, bien sûr.
On va en parler du top 14. On va en parler parce que ce week-end, il y avait du top 14.
Et alors, Clermont, ça donne quoi?
Clermont a fait match nul contre Bordeaux-Bègles, 23-23.
Ouais, mais ils veulent pas prendre trop d'avance.
Il n'y a plus de petite équipe.
Vous avez tout à fait raison. Franchement, c'est impressionnant le niveau qu'il y a maintenant en top 14.
Quand on voit Toulon.
Déjà, Toulon qui perd à domicile contre La Rochelle 23-20. Déjà, c'est incroyable. Castres qui bat Montpellier 38-25. Ça aussi, c'est une grosse performance de la part de Castres quand même. Grenoble qui inflige une correction au Stade Français 44-22. Pau qui va gagner à Toulouse 10-20, ça aussi c'est, on n'a pas compris.
Truc, non mais Toulouse ils n'ont pas eu de Pau.
Non mais Toulouse
ils sont pas très loin.
Ouais, hein, t'es facile celle-là.
Ouais, c'est bon, c'est une défaite dommage.
Et le Racing?
Et le Racing a perdu contre Lyon 37-25, ça aussi ça a été une énorme surprise. Et Bayonne s'est imposé 33-23 contre Brive. Donc ça a été des scores très élevés ce week-end. Il y a eu beaucoup de jeux. Au classement, La Rochelle passe premier.
Oui, c'est fou.
C'est La Rochelle premier.
La Rochelle, voilà.
Ils n'étaient même pas dans les 6 l'année dernière. Et cette année, ils sont premiers devant Clermont d'un petit point.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Eric. C'est-à-dire, toutes les équipes sont fortes. Ou la question, c'est, il faut peut-être s'inquiéter aussi. Est-ce que le niveau n'est pas en train de baisser?
Non, franchement, honnêtement, non. C'est ça le pire. C'est que le problème du.
Ou le mieux.
Le top 14, on a la chance d'avoir sûrement le plus gros championnat au niveau star et au niveau niveau. Au niveau de jeu, pour moi, dans le monde, on a l'un des meilleurs championnats, honnêtement. Et en fait, c'est impressionnant de voir tous les clubs. Par exemple, Montpellier recrute des Sud-Africains à chaque fois. On a Toulon. Bon, Toulon, ils recrutent des stars, mais ils n'arrivent plus à gagner. Maintenant, ça sert à rien. Et Toulouse qui commence à se créer une équipe intéressante. La Rochelle qui recrute des joueurs aussi d'un autre monde.
Surtout s'ils ont gagné.
C'est impressionnant, honnêtement. Je pensais pas que le top 14 allait évoluer à ce point. Et c'est tant mieux. Faut continuer comme ça. Et quand on regarde le classement, déjà le classement change et nous donne des surprises. Par exemple, donc du coup, on voit La Rochelle premier, Clermont deuxième, Montpellier troisième, Castres est passé quatrième, Toulon reste cinquième, donc Toulon encore moyen, Toulouse sixième, mais bon, ça va s'arranger, Bordeaux septième, Pau remonte à la huitième place. C'est plutôt surprenant pour Pau parce que c'est quand même une équipe pas d'un haut niveau, mais en fait ils ont quand même Conrad Smith qui est juste l'un des meilleurs centres de l'histoire du rugby à 15. Brive,
c'est en Corrèze.
Oui, Brive 9e, le Racing champion en titre et 10e au classement. C'est n'importe quoi.
Le Racing cette année, je sais pas ce que t'en penses Eric, mais on les voit pas.
Non, on les voit pas, mais de toute façon, d'une année à l'autre, on comprend plus rien par rapport à ce championnat. Ouais. Là, je me souviens une fois, l'USAP était champion de France.
Oui.
L'année d'après, il passait tout juste il descendait en deuxième division.
Bah, c'est comme.
Ça va très
français.
Très vite, hein. Exactement.
C'est comme le Stade Français qui a été champion il y a 2 ans, et l'année dernière, ils ont lutté pour leur maintien, qu'ils ont réussi d'ailleurs, et là, ils sont 11e au classement.
Oui.
C'est encore très bas, franchement. Pour le Stade Français, pour le Racing, 10-11e, c'est pas des places qu'il faut avoir. Quand t'as un club comme le Racing 92, dans ton club, t'as quand même le meilleur numéro 10 de l'histoire qui est Dan Carter. Quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe.
Quand t'es champion d'Europe l'année d'avant.
Qui a été finaliste.
Il était double champion du monde
avec le All Blacks. C'est le meilleur marqueur de l'histoire de points.
Oui, mais un joueur ne fait rien sur un 15.
Oui, mais quand même, on parle pas de n'importe qui, c'est quand même Dan Carter. Ils ont quand même une équipe incroyable. Ils ont aussi Rokosoko qui est un ailier incroyable qui a été dans le Blacks des années. C'est une équipe, le Racing, c'est pas normal qu'ils perdent. C'est pas normal qu'ils soient 10e.
J'en reviens à ce que Eric disait. Je pense que le niveau des équipes a bien augmenté.
Ah ouais,
quoi. Maintenant, c'est difficile.
Il n'y en a qu'un de niveau qui augmente pas, c'est celui d'équipe de France.
Ah oui.
Il faut maintenant
laisser la place aux jeunes.
L'équipe de France, ils ont encore le temps. Déjà, quand on regarde la tournée de novembre, ils ont même s'ils ont perdu 2 matchs contre l'Australie et contre la Nouvelle-Zélande, quand tu regardes les matchs, ils méritent plus de gagner que l'Australie ou que la Nouvelle-Zélande sur les matchs. On les perd, mais quand tu regardes par exemple face aux All Blacks, on s'est pris 3 essais parce qu'on s'est relâché sur 3 actions. Donc ça a été aussi bête que ça.
C'est ce qui fait la différence.
Mais on s'est relâché, c'est des choses qui arrivent.
Je rejoins un petit peu Eric. On est d'accord que
il manque encore cette petite chose.
Il y a ça. Et puis il y a toujours le clivage entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord.
Ah oui, mais ça toujours un écart.
La
seule équipe capable de battre actuellement, pour moi, capable de battre que ce soit l'Australie, l'Afrique du Sud, pas la Nouvelle-Zélande parce que eux ils sont invincibles, même si l'Irlande a gagné, mais c'était un exploit. Pour moi, c'est l'Angleterre.
Oui, l'Angleterre.
L'Angleterre et l'Irlande, c'est les deux équipes actuellement en Europe qui relève le niveau. L'équipe de France va arriver petit à petit. Déjà, le tournoi destination qui est très important. Donc, on va voir. Déjà, le gros match week-end, parce que premier match pour le tournoi destination, c'est quand même le crunch. Premier match en Angleterre.
Et puis, ouais, on intègre une nouvelle règle aussi. Dur, la règle du bonus défensif et offensif.
Oui, et bonus défensif et offensif qui arrive dans le tournoi destination. Ils l'ont mis.
C'est pas mal.
Est-ce que ça va être bien ou pas pour l'équipe de France? On va voir, mais bon.
Bon, bah écoute, en tout cas, on leur souhaite bonne chance. Nous, on va faire la pause musicale et puis après, on va faire du triathlon. Ça te plaît?
Oui, c'est pas un sport que je pratiquerais, mais.
Dis-moi, on va en parler. On va en parler.
Et on va pratiquer après, tu vois. À tout de suite.
Jazzy, la première t'as pas, j'aime pas. Elle n'a que 16 ans, elle veut déjà se marier. Elle est métissée, sa mère est française et son père antillais. De son jeune âge, elle collectionne les hommes par milliers. Mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout quartier. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Elle fait rien à la maison, allongée sur son lit, et ça toutes les saisons. Fixe mur comme en prison, manque de respect à sa mère, comme si elle avait raison. Arrête ça ma petite fille, ce que tu fais ça nous fait du mal et ça paye pas. Prendre une décision, la laisser partir hors de question, ça je ne peux pas. À présent tu resteras ici, je t'enferme à la maison. On verra qui a raison, je déconnecte la wifi, faut revenir à la raison. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Elle s'enfuit de la maison, plein sur le lit, elle enfuit son blouson. Les parents sous pression, elle a cassé sa puce et là ils font la liaison. Ses parents paniquent, là c'est grave. Petite princesse est partie sous ses bras. On connaît la vie et ses drames. Une soirée arrosée, la cour va mettre t'es enceinte. Mais non, on t'avait dit, mais non. Où est ton homme? Il t'a laissé, où est ton homme? Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Ah, bazardeux. Les problèmes ne vont pas tarder. Tout est gâché. Je laisse le futur s'en charger. La vie est un combat, ce n'est pas le paradis. L'avenir, je le vois pas. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Bazardeux. Elle est bazardeux. Bazardeux. Elle est bazardeux. Bazardeux. Elle est bazardeux. Bazardeux. Elle est bazardeux.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Si vous nous rejoignez, bah écoutez, soyez les bienvenus dans votre émission sportive de la semaine RTV Sport. On est bien sûr en direct depuis le 102.2 et on est au studio de Carpentras-Serre. Et Alexandre, on peut nous réécouter?
On peut nous réécouter, donc la rediffusion demain matin de 6h30 à 8h. Et à noter que le podcast sera diffusé dans la journée sur le site www.rtvfm.net et sur la page Facebook RTVFM.
Oh, t'as vu un peu le professionnalisme? Je suis impressionné.
Du par cœur.
Eh ben oui.
Les yeux fermés.
Et donc, je vous présente nos invités de ce soir. Tout d'abord, Eric Olive. Rebonsoir, Eric.
Rebonsoir à tous et à toutes.
Tu es le président du club de triathlon de Carpentras, le Ventoux Triathlon Club.
Il semblerait.
Il semblerait. Depuis maintenant un petit bout de temps, 4 ans.
Oui, 4 bonnes années, je pense. Hein. Ouais, 4 bonnes années. Au moins 4 ans. Ouais.
Au moins 4 ans.
Je sais pas si je suis pas en train d'attaquer la 5e année, mais enfin bon.
Donc, oui. Tu tiens bon. Parce que
pour l'instant,
au niveau des présidents, c'est vrai que ils sont souvent d'un certain âge. Et toi, tu es, je pense,
d'un
un
certain
des plus jeunes.
Aussi,
Non, mais un des plus jeunes présidents. Il faudrait qu'on fasse des statistiques sur Cap Entra.
Tu vois, c'est là où ça devient intéressant.
Ouais, on va faire ça.
Parce qu'on est encore pratiquant, c'est pour ça.
Bon, on va en parler justement. Mais je vais présenter également notre deuxième invité, Stéphane Mallet. Salut,
bonsoir.
Steph.
Bonsoir.
On est vraiment ravis de t'avoir parce que tu es un triathlète. Tu es un marathonien, parce que tu as fait le marathon, et tu es le lauréat justement du premier festival du film sportif de Vaucluse qui est intitulé 84 nuances de sport.
Tout à fait.
Ouais. Il a fait étape à Carpentras et tu as été élu parmi 8 films. On en parlera en deuxième partie d'émission.
C'est énorme.
C'est énorme.
En route vers Cannes.
Donc, on va revenir sur toi, Eric, avec le triathlon.
Sur moi, c'est peut-être pas très intéressant, mais sur le triathlon en général, oui, peut-être, oui.
Bah oui, mais tu vas nous éclairer.
Ça marche.
Pour les novices que nous sommes tous, c'est quoi le triathlon?
C'est l'effort de 3 disciplines enchaînées, en fait. Dans le sens natation, vélo et puis course à pied.
Voilà. Et c'est toujours dans cet ordre-là?
C'est toujours dans cet ordre-là. Il peut y avoir aussi du duathlon. Mais tu m'as posé la question sur le triathlon, mais je vais aussi te dire aussi duathlon, qui est course à pied, vélo, course à pied.
Alors justement,
et une discipline qui est en train de se démocratiser.
Une nouvelle, exactement.
Swimrun.
Exactement, je pensais à ça aussi.
Ouais. Le quoi?
Le swimrun.
Alors, développez les garçons.
Donc le swimrun, c'est natation, course à pied.
Voilà. Ah, mais par deux. Où tu as accroché.
Oui, alors en général, c'est par deux, il y a des épreuves individuelles.
Ouais.
Et donc on enchaîne... Natation, course à pied, natation, course à pied. Ouais. La fameuse course mythique Lotilo, qui a lieu en Suède, je crois.
C'est ça.
Et donc, cette pratique est en train de se démocratiser. Il y a plusieurs courses qui sont organisées cette année en France, dont je vais participer.
On va pouvoir en parler, justement. Voilà, on va pouvoir en parler.
Parce que c'est vrai que ça a quand même une particularité qui est assez rigolote, quoi.
Ça va être sympa, ouais. Surtout quand il fait beau, en fait. Parce que quand il fait froid...
Ouais. Mais justement, tu parlais du duathlon, oui. Parce que le triathlon, oui. On le fait pas l'hiver, on le pratique pas l'hiver.
Non, c'est pour ça qu'en cours de la saison...
C'est quoi une saison de triathlon? Ça part de quand et ça termine quand?
Avril, octobre.
Voilà, c'est ça.
Avril, fin octobre.
Triathlon, oui, c'est ça, ouais. Et après, le duathlon, c'est un peu... ça commence...
Mars.
Et au mois de novembre, décembre, janvier, vous n'avez pas de...
Il faut aller à Hawaï.
Voilà, il faut aller là où il fait beau, là où tu peux te baigner et tu peux faire du sport à l'extérieur.
Mais sinon, pour un triathlète, en fait, voilà, la saison est inversée par rapport aux autres sportifs. Les sportifs, d'une manière générale, ils font la pause juillet-août.
Ouais,
et,
bon,
hein, et vous, c'est novembre-décembre.
Bah, c'est quand il fait chaud, hein, quand tu peux te baigner, quand tu peux, quand tu peux nager.
Le vélo,
et le vélo, c'est quand même mieux de faire le vélo quand il fait beau, voilà.
Selon les épreuves.
Exactement, c'est en fonction de la distance.
Il faut passer maintenant en haut de l'Isoard, tu auras du mal.
Ouais, non, mais là, tu vois.
Il faut mettre des chaînes.
Voilà, c'est ça. Tu mets les chaînes, ouais, c'est ça.
Et
pour descendre, on met les patins.
Par contre, le triathlète est en général est quand même quelqu'un qui pratique le sport et tous les sports. Donc ça veut dire que quand il fait pratique pas le triathlon, et on en parlait en aparté tout à l'heure, on fait des trails, on fait des courses à pied, des randos vélo. Toi, souvent tu fais beaucoup de
ouais,
randos, des cyclos.
Mais voilà. C'est vrai que j'ai vu beaucoup Stéphane beaucoup faire du sport. Tu en fais aussi?
il préside.
Je ne fais que présider. Non,
je te vois nager, effectivement.
Ah, tu vois, des fois, voilà. Des fois, je vais à la piscine, oui, effectivement.
Ouais. Ouais. C'est mais après, sport, tu fais de la course à pied, du vélo?
Oui. Je cours deux à trois fois par semaine en ce moment-là.
Ouais.
Deux fois à la piste avec le club. Hein.
Hmm.
Puis souvent une petite sortie. Et bon, le vélo, pour l'instant, j'ai repris dimanche là, mais. Mais bon, des courses, des trails de temps en temps, voilà, c'est pour maintenir.
Donc on a vraiment des vrais sportifs devant nous, en fait.
Bah, oui, je pense qu'on on fait du sport quand même. Ouais.
Parce que c'est pas évident quand même d'enchaîner ces trois disciplines consécutivement.
Bah, c'est tout le défi de
c'est quand même des disciplines un peu antagonistes.
Oui, alors, si on joue là-dessus, souvent oui, mais en fait ça s'enchaîne bien, mais encore faut-il s'y préparer à minima. C'est-à-dire que c'est devenu une vraie spécificité, le triathlon. C'est-à-dire que le fait d'enchaîner, le plus dur, c'est toujours vélo, course à pied. C'est là où quand tu poses le vélo, là, t'as les jambes, tu fais waouh, ça fait quand même bizarre. Mais sinon, ça se prépare vraiment. Quand tu fais un entraînement, par exemple, tu fais un jour natation, le lendemain vélo et le surlendemain, on va dire, la course à pied, ça ne demande pas le même effort que si, par exemple, sur une séance, tu vas faire du vélo et après, tout de suite, tu vas enchaîner sur la course à pied. C'est vraiment du spécifique.
Et au niveau des distances, parce que j'ai entendu parler qu'effectivement, il y avait plusieurs distances en triathlon.
Oui.
Quelles sont-elles ?
T'as plusieurs distances, t'as les toutes petites distances qui commencent 400 mètres de natation,
14
en général de vélo et 2,5 de course à pied. Et
donc ça, c'est pour les débutants, ça ?
Voilà. Après, on va passer tout de suite sur la Olympique, ce qu'on appelle M, c'est 1,5. Oui, il y a les sprints, oui. Mais si c'est tu veux, on va pas faire. Oui. Mais oui, là, non. Pour la Olympique, c'est 1,5 en natation, 40 en vélo et 10 à pied. Ça, c'est ce que je fais le plus. Mais par
c'est
contre,
un petit peu ce qu'on a vu cet été, l'été dernier au Brésil avec le Français qui,
voilà,
malheureusement, était bien parti.
Ouais.
Mais sur la course à pied, il est mal arrivé. Ce sont les deux frères anglais qui ont,
comme d'hab, hein,
qui ont gagné.
Hein. C'est impressionnant. Quand tu vois les temps qu'ils font. On est dans un autre monde, quoi. C'est vraiment des triathlètes. Et
tu penses que sur le 10 km, ils arrivent ça à tomber en 30 minutes.
Putain,
après l'effort qu'ils ont fait en natation et au vélo, et que 30 minutes.
Plus la chaleur, parce qu'au Brésil, il y avait.
C'est la chaleur, mais quand tu peux prendre n'importe quelle course de haut niveau, 30 minutes ou 10 km, c'est déjà un bon temps, quoi.
Exactement. Et donc dans la distance, en fait, dans la distance, on pousse jusqu'aux distances Ironman.
Il y a le L.
La distance L, qui est 1,9, 90, 21. Tu finis par un SMI, qui quand même là déjà, ça commence à chatouiller un peu. Mm-hmm. Et puis après, tu as l'Ironman.
Il y a l'Ironman, hein, ouais.
Donc l'Ironman, c'est quoi en distance ?
3,8 km, 188 et un marathon.
Ouais. Faut vraiment
être en forme pour.
Ouais, mais toi, ça te branche, mais moi, c'est marrant.
Mais c'est quoi, Stéphane, qui te plaît justement dans ces distances extrêmes ?
Moi, j'en veux pour mon argent.
Ah, mais c'est ça.
Quand je paye l'inscription, je veux.
lui, c'est le défi, c'est pas le défi permanent ?
Non, mais c'est vrai
c'est
que.
C'est la crise de la cinquantaine ?
Ouais, peut-être.
Non, parce qu'arriver à ton âge, faire ça, c'est quand même pas mal.
Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai que sur ces distances-là, les triathlètes performants, ils ont pas loin de la quarantaine, parce que ça demande de l'endurance. Et en général, les plus jeunes vont avoir l'explosivité, mais pas l'endurance. Mmh. Et d'ailleurs, on peut saluer la performance de notre ami Benoît Bigot,
oui,
qui a fini 14e alors qu'il a 24 ans. C'est une sacrée performance. Je pense qu'un jour, il décrochera cette course.
Donc tu vois, Alexandre, t'es pas endurant.
Ah non, mais moi je serais pas capable de faire tout ça, honnêtement.
Ouais, et puis t'es jeune, donc tu fais du sprint.
Moi non plus, je pensais pas être capable. Et puis tu vois, un jour je suis arrivé.
À quel âge tu as commencé déjà ?
Ouais, j'ai toujours fait du sport. J'ai joué au foot de manière.
Oui, non, mais le triathlon c'est pas du tout du foot, c'est pas du tout endurance, c'est pas du tout.
Je veux dire par là que j'ai toujours pratiqué du sport. De manière assidue, pas un très gros haut niveau. Et puis pendant des années, j'avais mis ça entre parenthèses et je me suis remis au sport il y a une dizaine d'années.
Voilà. Ouais, mais enfin, se remettre et arriver à ce niveau-là, quand même.
Oui, il n'y a pas de niveau.
Je crois que ce qui est intéressant dans le triathlon, enfin, c'est ce pourquoi moi j'y suis arrivé, c'est que moi, en plus, passant d'un sport d'équipe qui n'avait rien à voir,
le rugby.
Tout à l'heure. Bon, après, tous les sports à côté. Bon, j'ai beaucoup pratiqué l'autre sport, mais. Et d'arriver comme ça à un sport individuel.
Oui.
Avec quand même physiquement c'est pas anodin. En plus, j'étais pas nageur. On n'est pas nageurs tous les deux. Donc voilà.
Toi, un peu plus.
Dire, oui, mais bah. Mais c'est, je crois que c'est le fait, c'est le défi. Voilà. Mm-hmm. C'est un sport qui. Il te lance un défi. Il te dit voilà, est-ce que je vais être en capacité d'arriver jusqu'au bout, en fait ? Est-ce que je suis capable de le faire, tout simplement ? Et bien, on se rend compte que quand on a décidé, on est capable de le faire. Et c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut quand même un minima quand même s'y préparer. Tu
ne
peux pas te lancer sur un Ironman par exemple. Non, c'est l'extrême.
Tu peux faire un format L qui est la moitié de la distance. Bon, il suffit de t'entraîner une paire de mois, tu y arrives. Bon, un Ironman.
Non, là, c'est
ça. Bah, surtout qu'on en parlera tout à l'heure, parce que justement, dans le festival, tu parles de l'Ambreman, l'Ironman d'Embrun, qui est quand même considéré comme le plus dur au monde, un des plus durs au monde.
Ça a été longtemps le cas. Aujourd'hui, il y a quelques triathlons qui sont plus durs que celui-ci, mais.
Mais en tout cas, ça l'a
c'est
été.
C'est la référence, ouais, ça l'a voilà. été pendant très longtemps. Référence. Surtout pour nous. Il fait partie du haut du panier dans la difficulté, quoi.
Et sinon, on parlait justement de l'âge auquel vous avez commencé justement cette discipline, mais sinon, un enfant, lui, pourrait commencer à partir de quel âge ? Au niveau de la fédération, il y a des normes ?
Non, enfin, ça, c'est très tôt, c'est à l'âge poussin, comme on dit. Hein, poussin.
Et il y a des triathlons spécialement faits pour eux ?
Eh bien, par exemple, le triathlon que nous organisons à Carpentras, il y a ce qu'on appelle une animation, et on fait découvrir aux enfants l'effort enchaîné. C'est pas chronométré. Les enfants font 50 mètres de natation, 2 km en vélo et ils font 400 mètres de course à pied. C'est pas chronométré, bah, par exemple cette année au triathlon j'en avais une trentaine. Ça veut dire que c'est quelque chose qui marche. Et c'est surtout un sport qui est sain, je trouve. Quand on voit par exemple nous dans l'organisation du triathlon de Carpentras, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Les familles sont souvent les familles de sportifs. Hein, de sportives et ils viennent en famille, ils pratiquent ensemble et c'est vrai qu'il y a une atmosphère, c'est d'une zénitude. Je pense que Lionel, toi qui es l'animateur du triathlon de Carpentras, que toi qui prends le micro, tu t'aperçois quand même que les gens qui sont autour sont quand même relativement calmes.
Effectivement, il y a une énorme émulation aussi parce que c'est vrai que oui, ça crée de l'enthousiasme parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau des enfants, c'est quelque chose déjà qui est assez atypique, parce que les enfants, on va leur demander de faire du foot, du vélo, etc. Mais on leur demande de faire trois disciplines. Et franchement, c'est vrai que quand j'ai la chance, effectivement, d'animer ce triathlon depuis 3-4 ans maintenant, 3 ans, et c'est vrai que à chaque fois, c'est complet. C'est-à-dire que les enfants ont vraiment envie de pratiquer, ont vraiment envie, et ils se donnent à fond. Comme tu disais, Eric, c'est pas chronométré. Mais n'empêche que les enfants,
ils sont à fond.
Et les parents, ils sont à fond aussi.
Ouais.
Tu les vois les parents derrière à les encourager. Dans le parc à vélo, les parents sont là aussi pour les aider parce que c'est pas évident la transition, parce qu'il y a effectivement ce qu'on appelle l'ère de transition.
Exactement.
Donc voilà. Et franchement, moi j'encourage vraiment les gens à venir voir, même à pratiquer. Même pour les plus grands, parce que quand on est novice, on peut pratiquer celui du matin.
Oui, c'est vrai. Je sais pas si on parle encore tout de suite. Si tu veux qu'on parle du triathlon.
Non, mais juste une parenthèse.
C'est une parenthèse. Oui, le petit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le petit, c'est
400 mètres,
12 km et demi en vélo, je crois, ou 14.
Ouais, 14
et 2,5 à pied. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, justement, pour un premier défi, juste pour sentir un petit peu les muscles travailler différemment, notamment la dépose du vélo. Voilà, ça peut être intéressant juste de venir sentir un petit peu l'effort.
Ben, on va faire une petite pause et puis après, moi, ce que je voudrais savoir, c'est s'il faut beaucoup s'entraîner parce que trois disciplines, peut-être trois fois plus d'entraînement. On va voir ça après, juste après.
Cause we don't know.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc on est en train de pratiquer du triathlon avec Eric Olive et Stéphane Mallet.
Ouais, d'ailleurs, Alexandre et moi, on est très fatigués.
Hein. Ça se voit.
Là, on vient de finir la natation, là, on n'en peut plus.
Ça promet. Et justement, moi, la question que je me posais, c'était trois disciplines, trois fois plus d'entraînement ou non ? C'est une idée reçue.
Je sais pas, qu'est-ce que tu veux répondre à... Oui, normalement.
Oui, trois fois plus. Il faut pas négliger. Faut pas négliger une si on veut être performant, mais si on veut prendre du plaisir, quoi, que ça soit pas trop de la souffrance. Il faut s'entraîner sur les trois.
Mais justement, toi, Stéphane, tu fais donc les grandes distances. Alors, quand on parle grandes distances, 3,8 km de natation, 180 bornes en vélo, un marathon. Tu vas t'entraîner, c'est-à-dire que ton programme d'entraînement en course à pied, c'est le même programme que les marathoniens ? Le vélo, c'est comme les cyclistes qui font les...
En moyenne, c'est... Et encore, je ne fais pas partie des furieux, on va dire, mais c'est entre 2-3 séances de natation, ça veut dire minimum entre 6 et 10 km par semaine. Ça va être... 80 km de vélo en semaine le soir et une grosse sortie le week-end. Et puis 30-40 km sur la semaine aussi en course à pied. Quoi.
Oh, c'est un truc de fou.
Alors après, on peut un peu réduire, comme disait Eric, parce que l'enchaînement, c'est encore autre chose. Donc on peut réduire les distances au niveau de l'entraînement, mais effectivement, enchaîner pour se préparer nos muscles à la transition. Quoi.
Parce que justement, c'est pas ça le plus dur, le fait justement de faire la transition. C'est-à-dire par exemple, Stéphane, tu vas t'entraîner, tu vas faire du vélo, mais tu vas t'arrêter là.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça que quand on prépare une compétition, il faut s'entraîner dans les trois disciplines et il faut être à un moment donné capable en entraînement de pouvoir les enchaîner pour habituer l'organisme à cette transition musculaire. Alors, parce que c'est vrai que. La moins dure, c'est quand on passe de la natation au vélo, mais bon, il faut savoir qu'on va nager pendant moins d'une heure pour les meilleurs et jusqu'à une heure et demie, entre une heure et demie
pour les autres, un peu moins bons.
Ouais, pour les un peu moins bons, mais bon, on passe pendant cette partie-là, on a le corps allongé dans l'eau. Quand on sort, voilà, il faut se remettre debout, la tête qui tourne.
Les jambes qui flagellent.
Exactement.
Et après, tu vas te dire, pour l'Ironman, je vais me taper 180 bornes de vélo, quoi.
Et pas du plat.
Ouais. Bien sûr, tant qu'à faire.
Pas du plat, surtout à Embrun.
Parce que là-bas, t'as pas le code de l'Isoar.
Si, exactement.
Ouais. Oui, donc à Embrun, t'as ça. Donc une belle montée. Et puis après 180 km de vélo, tu dis qu'est-ce que j'ai pendant le dessert ? Allez, un petit marathon.
Un petit marathon avec 400 mètres de dénivelé, quoi.
Voilà.
Mais ça, c'est... quand t'as fait l'Isoar, t'as fait que la moitié, quoi.
Oui, en plus. Et alors, à votre avis, je voudrais avoir votre avis individuel. Quelle est la qualité première de notre athlète ?
Il faut être complet dans les trois disciplines.
Ah, et sur le principe,
oui. Mais pour vous, au niveau général, c'est le physique pour vous ? Ou est-ce que le mental rentre pas là?
Bah, le mental, ça joue.
Le mental, il joue énormément sur les longues distances. Le mental, il joue à 50%. Hein.
Mais comme dans tous les sports, en fait. Hein.
Ouais. Tu pars d'ailleurs, sur tous les sports à haut niveau, le mental, il joue énormément. Hein.
Souvent, c'est ce qui fait la différence.
Et surtout dans les sports individuels.
Ouais, ouais. Oui, parce que tu es seul avec toi-même, en fait.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette discipline? Pourquoi aller vers le triathlon? Tu as fait du rugby, tu aurais pu aller vers un autre sport.
Moi, je crois qu'il y a... Je crois que...
Qui te l'a fait découvrir, ce triathlon?
La télé, les informations, les
pourtant,
images...
Pourtant, c'est pas très médiatisé.
De défis, le peu que tu voyais, enfin, que je voyais moi à l'époque, c'était, est-ce que j'étais moi en capacité de le faire? Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, avec un minimum d'entraînement, on est en capacité de le faire. Mais moi, c'est ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure déjà, c'est que c'est
l'envie de te surpasser.
Surpasser, je ne sais pas, mais le défi, est-ce que je suis en capacité d'y arriver? Après, nous, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être finisher, entre guillemets. Est-ce que j'étais en capacité de finir? Surtout sur les Iron.
T'en as fait un, toi, Ironman?
Non, mais franchement, ça me botte pas. Ça j'ai botte pas du tout envie, quoi. Déjà, j'ai pas le temps de m'entraîner justement pour pouvoir faire un iron, mais je n'ai pas d'attirance pour cette distance. Je suis plus à la rigueur un triathlon, deux triathlons. Enfin, l'année dernière, j'en ai fait quoi, 4-5 de triathlons entre les S et les M. Mais surtout, il y a beaucoup de courses à pied, trail. C'est vraiment être vraiment pluridisciplinaire, en fait.
Et tout à l'heure, on parlait justement d'un âge minimum, mais est-ce qu'il y a un âge maximum? Parce qu'on parlait justement de...
Un exemple tout bête,
en vélo, il y a eu le record de l'heure d'Alain Marchand qui était...
Robert Marchand.
Qui a 105 ans. C'est vrai qu'on ne va pas vous demander de faire du triathlon à 105 ans, mais quand même, je pense, est-ce qu'il y a vraiment un âge où on se dit, vaut mieux raccrocher?
105 ans, ça me fera dans 52 ans, peut-être d'ici là,
je pense
on pourra pratiquer du triathlon jusqu'à 105 ans tranquillement. Quoi.
Mais je pense que chaque athlète, quel que soit l'athlète, à un moment donné, tu t'arrêtes toi-même.
Il y a quand même quelques...
Ton corps qui te le dit.
Oui, ton corps te le dit. Mmh. C'est vrai que c'est une exigence... C'est des sacrifices familiaux également, donc à un moment donné on décroche un peu, quoi, je pense. Mais il y a quelques soixantenaires, voire sexagénaires sur des triathlons, on en voit.
Après, quand je vois, par exemple, on parlait de rugby tout à l'heure, quand je vois le rugby d'aujourd'hui, et je me dis, je sais pas jusqu'à quel âge ils pourront en faire, c'est tellement violent, il y a tellement de chocs, que je me dis, le triathlon c'est quand même plus doux au final. Je veux dire, à 40 ans, en rugbyman, je ne sais pas si... quand ils auront fait 15 ans de carrière, je ne sais pas ce que ça va devenir.
Il y a très peu de rugbyman qui...
Quand
on regarde, c'est vrai que au rugby, que ce soit au rugby ou au foot, les carrières, elles s'arrêtent souvent vers les 35 ans. Mm-hmm. Vers les 35 ans, c'est là au moment où on commence
déjà avec les chocs, encore le foot.
Déjà, ça va, mais le rugby, c'est vrai que...
Au triathlon, sur longue distance, 35 ans, c'est...
Oui, c'était
un peu... Moi, on a un exemple, Jalabert. C'était un très, très bon cycliste. Il a fait toute sa carrière justement en tant que cycliste, et à la retraite, il s'est mis au triathlon.
Parce que c'est un vrai sportif. En plus, je crois qu'au fond de lui, c'est un sportif, il aime ça. Bon, je crois que c'est toujours un piètre nageur, parce qu'il a commencé relativement tard. Avec ce qu'il met en vélo et puis à pied, il tourne très bien.
Et justement, par rapport à ça, vaut mieux venir de quelle discipline? Parce que si on est mauvais nageur, on va sortir forcément dernier. Par contre, si on prend l'exemple de l'Ironman, il y a que entre guillemets que 3,8 km. Si on est excellent en vélo comme Jalabert, on a 180 km pour se rattraper.
C'est sûr.
Et si on est super bon en course à pied et piètre cycliste, on est un marathonien. Si on essaie de regarder justement de faire le rapport entre l'ensemble des disciplines, on se dit vaut mieux être un cycliste pour être un bon triathlète.
Les meilleurs, ils ont un niveau excellent en natation. C'est quand même ce qui fait la différence, parce que en s'entraînant de manière correcte, bien suivi, un bon nageur, il atteint un niveau de vélo et de course à pied assez vite. Alors que, parce que la natation, ça demande quand même la technique fait beaucoup. Oui. La technique, je crois que si on l'a pas,
si on l'a pas acquis tout petit, c'est vraiment difficile.
Mais c'est vrai ce que tu dis, Stéphane, parce que je ne sais pas, Valérie, Alexandre, tu n'étais pas encore là. On avait reçu Betty Kals.
Oui.
belge.
Alors, en combien, en 2 ans, même pas. Elle,
non, 5 ans.
5 ans.
Mais en fait, Bettica, c'est une. Je sais pas si tu en as parlé, Eric. En fait, c'est une Belge qui fait énormément de vélo et qui a essayé de battre le record du monde de montée du Mont Ventoux.
C'est pas exactement ça.
Rentrer dans le Guinness Book. Ouais.
C'est le record du dénivelé qu'elle a battu.
Le record du dénivelé.
Elle a fait, elle a fait
14 000, 7, je crois.
Ouais, elle a fait 7 montées et demi.
Ouais. C'est ça. Et elle a été obligée. Et en plus,
parce
la
que
pauvre.
Les conditions météo étaient
catastrophiques. Voilà, de la neige.
Ouais, non, les conditions météo étaient.
Très, très, très mauvaises.
La dernière montée, moi j'avais assisté à une paire de montées et j'étais allé la voir. Franchement, un respect.
Mais à l'origine, c'était pour rentrer dans le Guinness Book des records. Et en plus, le pire, c'est qu'au départ, je ne sais pas si tu as su l'histoire, mais 3-4 jours, on l'a reçu le lundi. Le lundi, elle nous dit, moi, ce que je vais faire, c'est que, c'est une petite parenthèse qu'on fait, et après, je reviendrai sur elle, justement, sur le pourquoi du comment je parle d'elle.
Voilà,
pour la petite histoire, c'est qu'en fait, elle devait faire la montée donc en vélo, arriver en haut, elle monte dans la voiture, qui la redescend au point de départ, ça, et ensuite, elle remonte. Mais comme elle devait rentrer, parce qu'à l'origine, c'était pas forcément battre le record du monde de montée, c'était surtout rentrer dans le Guinness Book des records, sachant que le record était à 7 montées, je crois, et pour les hommes, c'était 11. La veille de son départ, donc elle devait partir le jeudi matin à 6 heures, la veille, les organisateurs du Guinness Book
ont
changé les règles et ils lui ont dit, attendez, non, vous allez monter en vélo, mais redescendre en vélo.
D'accord. Ouais.
Donc, en fait, elle ne s'y attendait pas forcément. Donc, c'était plus compliqué pour elle au niveau mental. Et ensuite, ils ont mis du temps aussi à calculer justement la dénivelé positive parce que nous, on l'a reçu le lundi suivant. Alors, tu as battu le record du monde, tu as fait combien? On ne sait pas. J'ai dit, mais tu sais combien tu as fait de montée? Tu as juste à calculer la dénivelé. Mm-hmm. Oui, non. Parce qu'en fait, quand on redescend, il y a des moments où tu remontes. Ça rentre dans le cadre de la dénivelé positive.
C'est pour ça que le record, c'est pas le nombre de montées du Ventoux, c'est le record, c'est le dénivelé total en fait. Qu'on fait.
C'est ça.
Donc on peut faire, si tu veux, tu peux battre ce record dans la Madeleine, si tu arrives à la monter 400 fois dans la journée, à la fin, tu auras fait. Non, mais c'est vrai, tu auras fait.
Mais c'est vrai, mais c'est pour ça qu'à l'origine, elle voulait justement faire le record, rentrer dans le Guinness Book des records, pas forcément faire la dénivelé positive. Si je parle de ça, c'est tout simplement parce que quand on l'a reçu.
Quel est le lien?
Voilà, le lien. C'est que avant, donc, d'arriver en France, elle ne faisait pas de vélo, elle buvait de la bière, comme je le disais.
Ouais, ouais.
Et donc, elle s'est mise au vélo comme ça.
Du jour au lendemain.
Et au bout de 5 ans, donc c'est relativement court, elle a réussi à faire des montées du Ventoux en moins d'1h30. Ce qui, pour les puristes, est exceptionnel. Je ne sais pas combien tu mets monter le Ventoux.
J'ai jamais mis 1h30.
Et elle met 1h30 à monter le Ventoux. Donc elle me dit, non, l'avantage, c'est que quand on pratique le vélo, on progresse très vite. Mais il faut pratiquer. La technique importe pas forcément, parce qu'il n'y a pas de technique. Vélo, voilà. Mais par contre, voilà, c'est un bon vélo, tu arrives à faire. Et c'est vrai que, je te rejoins un petit peu, la natation, ça nécessite effectivement d'avoir de la technique, de l'endurance, du cardio.
C'est pas comme au ski.
Mais c'est exactement,
c'est
le ski, si
t'as pas démarré très jeune.
Mais toi, tu viens d'où, toi? De quelle discipline alors? La course à pied plutôt, le vélo?
Oui, la course à pied, plutôt la course à pied. Le vélo, j'en ai pratiqué un petit peu, mais comme ça, quoi. Mais la discipline dans laquelle j'excelle le plus, c'est la course à pied. Pourtant, en triathlon, c'est celle où je souffre le plus.
Ah.
Parce que l'enchaînement.
Oui, c'est pas la course à pied qui fait réellement la différence, hein, je pense. Hein,
Bon, après, il faut vraiment être complet. C'est les trois disciplines, mais bon, ouais, Benoît, il vient de la natation.
Oui, et il nage très bien. Et
parce que justement, à Carpentras, vous avez combien de triathlètes?
Là, en ce moment, là? En ce moment, tout de suite, là? Non, là, on est 25, 26, 27, presque une trentaine de membres, là.
Ah, c'est bien.
Oui, mais licenciés officiellement.
Licenciés. Donc, eux, ils participent régulièrement à des triathlons.
Oui, au triathlon.
Et Benoît Bigot, donc, lui, il fait partie des membres et c'est un triathlète professionnel, non, c'est ça?
Non, il ne fait pas partie des membres du club. Il vit sur Carpentras et maintenant, il est au Tridex, je crois. Oui, il a changé. Ça. Il était au Tri Besançon. L'année dernière, il nous accompagnait. Mais cette année, il est parti. Mais
par rapport à son niveau, aucun intérêt qu'il soit licencié à Carpentras.
Non, aucun.
Et donc, 30 membres, c'est pas mal par rapport. Parce que le club, il est tout jeune, il a quoi? Il a 5-6 ans?
Ouais, il a 5-6 ans. Et cette année, on a une nouveauté au niveau des licences. C'est-à-dire que lors de la dernière assemblée générale, on a acté le fait que des jeunes qui ne faisaient pas du triathlon, mais qui pratiquaient un autre sport, pouvaient prendre une licence de triathlon chez nous.
Mais quand tu parles des jeunes, c'est-à-dire quel âge ?
Eh bien, des enfants, bon, à partir de 8, 7, enfin à partir de 10 ans, on va dire, pour être vraiment... pour être vraiment sûr, voilà, on leur donne la possibilité de prendre une licence pratiquement à prix coûtant. On n'a pas d'encadrement direct, mais si en fonction des enfants qui viendraient s'inscrire, on aurait des rapprochements et des regroupements sur un week-end ou ce genre de choses.
Quelle que soit la discipline sportive.
Ouais, à mon avis, si c'est équitation, je ne sais pas s'il y a un intérêt, mais par exemple, si c'est des nageurs.
Si ils ont envie de découvrir, pourquoi pas.
Et s'il a envie de... Sauf que nous n'avons pas d'encadrement à la date d'aujourd'hui encore. C'est pour ça que voilà. Et on a eu cette idée et pour l'instant il y en a qui sont intéressés, souvent aussi ce sont des filles, des fils de membres aussi. Et comme ça ils pourront présenter aussi sur des petites courses le club de triathlon Carpentras.
Parce que je me rappelle justement pour l'animathlon qui est organisé à chaque triathlon au mois de juin, bah, les enfants qui participent ils ont tous envie de s'inscrire après, hein.
Oui, sauf que ouvrir une école c'est assez difficile, là. Nous le club finance des formations pour les membres qui veulent vraiment s'investir. Cette année, nous avons deux membres qui passent la formation, ce qu'on appelle l'UBF5, c'est le premier niveau. On en a déjà formé quelques-uns avant, mais après, le top départ, c'est d'avoir des gens qui vraiment s'investissent et qui disent « Oui, ok, je vais prendre un créneau, tel jour, je serai là tous les jours. » Et là, c'est rassurant. Voilà. Mais la date d'aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire. Donc voilà, on est sur un compromis, on est sur quelque chose comme ça. On démarre.
Et sinon, donc, le triathlon de Carpentras, cette année, la date, c'est quand alors ?
Le 18 juin, c'est l'appel du triathlon de Carpentras, 18 juin.
Des nouveautés
2017.
Cette année ?
Alors, les nouveautés, en fait, les nouveautés, ben, cette année, on est encore labellisé, donc gros label pour nous. On est championnat du Vaucluse, comme on va dire tous les ans. Ouais, voilà. Et nous sommes sur le XS championnat minime.
Donc départemental, c'est la petite distance, c'est ça ?
Voilà, départemental. Et sur l'après-midi, nous sommes comme l'année dernière, nous sommes troisième étape et finale du départ de comment ?
Détroit.
De la oui du championnat Détroit, donc troisième division de triathlon.
Ah oui, donc ça va être un sacré niveau.
Oui, je pense que l'après-midi, oui. En plus, c'est hommes plus femmes. L'année dernière, nous n'avons que les hommes. Cette année, nous avons les deux.
Ah, et en moyenne, il y a combien de participants à ce triathlon ?
Je
crois que vous êtes toujours complet. Hein.
L'année dernière, sur la course de l'après-midi, presque. Le matin, beaucoup moins que l'année d'avant. C'est... L'année dernière, on était 240 sur la journée. Mais là, cette année, avec la Détroit sur le S, le XS avec les minimes départementaux, donc ça va venir de tout le départ. Enfin, régional, pas département. Régional. Donc voilà, donc là le triathlon il va être
il va y avoir du monde et du spectacle.
Je pense qu'il va y avoir du monde et on se limite à 300 triathlètes.
Et du niveau.
Et du niveau en plus. Et donc on va se limiter à 300 triathlètes à la journée, quoi.
Eh ben on vous recevra justement quelques semaines avant pour rentrer en détail justement dans ce triathlon. Mais nous on va faire une petite pause et puis après on va parler justement avec un grand sportif qui participe au traitement de Carpentras. Tu participes ou pas? Non, tu organises.
À l'organisation.
Ouais, voilà, il est en tant que bénévole.
Non, voilà, il faut des bénévoles. Si on veut que des traitements puissent se réaliser, il faut s'en occuper.
Allez, voilà, à tout
exactement.
Je reconnais, j'ai déconné. T'as essuyé tes larmes et tu t'es envolé. J'y pense ce soir en fermant les volets. Je t'imagine une dernière fois me pardonner. Je veux rentrer dans ta vie mais le code est erroné. Tu as tourné la page de moi, t'entends plus parler. Je vais de ville en ville, non pas pour me balader. Mais tu es ce diamant que j'aimerais dérober. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver. Je viendrai te chercher jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. We'll be right back.
un mot. Je vois ton visage partout à croire que je suis parano. T'as changé de vie, t'as changé de numéro. Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre. Ton parfum sur les drames ne cesse de me faire voyager. Autour de moi les gens disent que t'as déménagé. Et j'ai ouvert les yeux quand les tiens se sont fermés. À l'autre bout du monde je te retrouverai. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver. Je viendrai te chercher jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. T'es parti te voyager et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver et tu m'en veux à mort. T'es parti toi voyager et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Jusqu'à Porto Rico.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième partie de l'émission avec Stéphane Mallet. Par contre, juste Bruno, j'ai pas de retour dans le casque. C'est normal ? C'est bon ? Tu l'as ? Bon, mais c'est pas... Mais
t'as pas le casque sur les oreilles.
C'est pour ça. Ah, mais voilà, fallait me le dire, fallait me mettre sur les oreilles.
Casque. J'ai pas de casque, donc c'est bon, j'ai
Non, non,
j'ai
mais on m'a pas dit qu'il fallait mettre dans le... Mais bon, c'est pas grave. Donc, Steph, tu as participé justement au premier festival. Alors, je vais expliquer un petit peu en quelques mots ce qu'est ce festival du film sportif de Vaucluse. En fait, donc, il s'appelle 84 nuances de sport. C'est porté par le comité départemental olympique et sportif de Vaucluse et également par l'association Profession Sport, qui est une antenne du CDOS 84. Alors l'objectif, c'est vraiment de promouvoir le sport, mais aussi à travers lui, le département de Vaucluse. Et franchement, il y a des images qui sont magnifiques. Le festival a débuté le 13 décembre dernier à Avignon. C'était la première projection. Ensuite, il s'est déplacé à Carpentras, est allé ensuite à Vaison-la-Romaine pour terminer à Apt fin janvier. Alors, la soirée, en fait, était décomposée en deux parties. Une première partie, c'était un long métrage qui a été réalisé justement par des professionnels. Il a fallu pas moins de deux ans, je crois, pour préparer... Huit mois de travail pour préparer ce long métrage et qui retrace de nombreuses disciplines. C'est vraiment un zapping.
Ça regroupe toutes les disciplines et toutes les spécificités que peut offrir le Vaucluse au niveau du sport. Le vélo,
avec l'aviron,
l'escalade,
sur le Rhône,
l'aviron, la natation.
Le vélo avec le Mont Ventoux.
La spéléo, enfin vraiment tous les sports. Le foot, le rugby, tous les sports sont représentés.
Il y avait le triathlon.
Il y avait le triathlon de Carpentras
qui était support pour présenter la discipline. C'était bien. Voilà.
C'était vraiment professionnel en plus, ce long métrage. Ça a duré à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc c'était la première partie. Et puis en deuxième partie, on avait des courts-métrages réalisés par des amateurs. Mais bon, quand tu vois les vidéos, franchement, tu te dis, ce sont des professionnels quand même qui ont filmé ça. C'était impressionnant. Il y avait 8 courts-métrages à Carpentras. Et dans ces courts-métrages, donc, on avait nos amis de Mazan, le hand ensemble, le hand fauteuil, qui était présent. On avait donc Stéphane Mallet. On avait également La Garance. Et t'es tout seul. Mais comme un grand, parce qu'avec l'Ambroman, il y avait donc pump la Garance track, qui était présente.
Track, c'est...
Le pump track. Il y avait également le club de plongée en e-sport d'Avignon.
Et la natation, le club d'Avignon avec le club... nageur.
Je ne me rappelle plus son nom, oui, effectivement, qui est parti maintenant nager en voilà. Tibes et un excellent nageur. Donc, il y avait ces courts-métrages. Et ce qui était vraiment bien, c'était une élection. C'est-à-dire que nous, le public, on devait voter pour le meilleur court-métrage. Et à l'addition de tous les votes, c'est Stéphane qui a été le lauréat
sur
de
Carpentras, quand même, j'espère, quand même. Hein.
Ah oui, j'ai titillé Azou.
Ah oui, ah, quand même.
Et... Sur Avignon, j'ai titillé Azou, mais sur Carpentras... Mais
non, quand même.
Et franchement, ben, un gros coup de chapeau, parce que déjà pour ta performance, pour le film aussi, donc oui. Ben, ton non, caméraman non, devait être là, parler, malheureusement il n'est pas là, mais en tout cas
Gilles
on le salue.
Mon ami qui a réalisé le film devait être là, bon pour des raisons familiales.
Mais en tout cas, tu le féliciteras, parce que franchement
Non seulement je le félicite, mais je tiens à le remercier aussi, parce que il m'a fait un film... D'une manière générale, quand les gens le voient, me disent tous que c'est émouvant. Il a réussi à capter de l'émotion, de l'effort. Enfin, voilà,
on voit la décomposition de Stéphane.
Non, mais c'est vrai.
On le voit au début très frais, là, et après à l'arrivée, ouh.
Un peu moins, il faut dire qu'après 16 heures de course.
Ouais, ça a mis vraiment en valeur. Et c'est pour cette raison qu'il a été élu. Parce que tous les courts-métrages méritaient, on va dire, d'être élus. Parce que non mais c'est vrai, parce que
Chauvin aussi,
on met en avant
sur Carpentras, voilà,
oui,
c'est Stéphane,
sur Carpentras,
voilà, c'est tout, ça s'arrête comme là.
Le hand de Mazan, le hand ensemble,
il y avait d'autres disciplines locales
avec Mazan, il y avait également donc la Garance a atteint des palus. C'est vrai que mais ce qui sortait effectivement, c'était cette sensibilité qui ressortait.
C'est vrai qu'il a réussi vraiment à capter toute l'émotion que peut retranscrire cette épreuve, qu'on rencontre dans ce type d'épreuve avec la famille, les amis, les supporters. Voilà.
Mais c'est un caméraman professionnel ?
Alors c'est quelqu'un qui réalise des films professionnels et qui est curieux de tout. Et qui m'a dit, lorsque je lui ai fait part que je voulais participer à l'Ambroman, il m'a dit, je viendrai te filmer parce que c'est... C'est une facette de mon métier que j'ai jamais trop explorée et voilà, ça m'intéresse de le faire.
Et comment il a fait pour te filmer, pour prendre toutes ces images ? Il l'a fait avec toi ? Il a couru avec toi ?
Oui, exactement, il était avec moi, il était accompagné de... Parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas le cas sur tous les Ironman, mais l'Ironman d'Embrun, tant qu'on va dans le sens de la course, la route est ouverte. Donc, accompagné de mon beau-frère Thierry Morard, que je remercie aussi parce que c'est une sacrée performance, passer toute la journée à trimballer un caméraman, il faut le faire quoi. Donc ils m'ont filmé en moto, ils m'ont accompagné tout au long de la journée, de la sortie du parc à vélo, un petit peu de natation et toute la partie vélo et une bonne partie de la course à pied, parce que là c'était difficile de...
Mais par contre, tu es un sportif, on va dire, maintenant confirmé, tu fais du marathon, tu fais donc du triathlon. Pourquoi avoir choisi ce triathlon particulièrement? Alors, et cette discipline?
C'est vrai que quand j'ai commencé à dire à mon entourage que je voulais faire l'Ambronman, on m'a traité de fou. Bon, en plus, c'était un défi pour mes 50 ans. J'avais jamais fait d'Ironman. Et c'est vrai que c'est pas forcément par celui-là qu'on débute. Mais comme c'est une région que j'apprécie beaucoup pour y aller souvent faire du ski, dans la station des Ors qui est pas très loin, moi j'avais un petit coup de cœur pour cette discipline-là, enfin, ce triathlon-là, et pour la région. Donc voilà pourquoi je me suis mis ça. Bon, ça a été quand même une préparation mentale. 2 ans avant, je m'étais dit pour mes 50 ans, je me préparerai. Donc, je me suis mis ça dans la tête et je me suis entraîné pendant quasiment un an. Peut-être pas tout à fait, mais voilà. Donc, c'est vrai que voilà, j'avais une attache particulière à cette région et à cette épreuve.
Et pour le festival, tu as choisi ce triathlon pour les mêmes raisons? Parce que tu aurais pu décider de faire un marathon et être filmé sur un marathon.
Non, Roland avait déjà vu le film. J'avais déjà été récompensé une fois par l'OMS avec Nathalie qui m'a accompagné une fois ici, qui m'a accompagné à Embrun. Et pour mettre en avant aussi le club, hein, c'est normal. On avait été récompensé lors d'une soirée de l'OMS. Et Roland avait vu le film et quand il a mis sur pied ce projet de 84 nuages de sport, et il m'a dit voilà, parallèlement on va projeter des films amateurs, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on projette ton film? J'ai dit il n'y a pas de souci. J'ai demandé en tant que professionnel aussi de l'image, parce que c'est un peu mon métier, j'ai demandé l'autorisation à mon ami donc Gilles Dautel qui a réalisé le film, s'il était ok. Il a dit il n'y avait pas de problème, et donc voilà pourquoi le film a été retenu dans la catégorie quoi, et fait, dans la catégorie des films amateurs.
Donc si on comprend bien, tu as fait le film à l'origine sans forcément, on va dire, avoir l'objectif de le présenter au festival. Mais pourquoi, même si tu as eu une demande, on va dire, extérieure de Roland Davot qui fait partie justement du GDOX, il est président de la commission sport et handicap, entre autres, et candidat officiel, ça y est, la présidence du GDOS, effectivement, on le souhaite bonne chance. Mais quelle était ta motivation, justement, pour présenter au festival?
Bah, écoute, il n'y avait pas vraiment de motivation. C'était une opportunité qui s'est présentée à moi. Et comme je sais que ce film a beaucoup marqué les esprits, voilà, je me suis dit, pourquoi pas continuer à le diffuser, malgré qu'il ait été réalisé il y a 2 ans. Et ça m'a fait énormément plaisir, parce que je sais que c'est quelque chose qui va rester et qu'on va continuer à voir sur les réseaux sociaux ou peut-être dans d'autres, j'aurai d'autres occasions de le présenter, on ne sait pas, hein, je ne sais pas.
Du coup, à chaque fois que tu le vois, tu revis la course en fait.
Exactement.
Ouais,
exactement.
C'est ça,
ouais, non, mais
je me rappelle à ce moment-là.
Ouais, exactement, non mais à chaque fois. Dur, et puis, alors, c'est vrai, j'avais dit, j'avais un peu d'appréhension parce que quand Gilles m'a dit, bon, je vais te filmer. Je lui ai dit, j'espère que je vais arriver au bout. Et il m'a dit, mais si tu n'arrives pas au bout, et alors? Voilà, ça a été sa réflexion. Mais c'est vrai que couper la ligne, c'était aussi. Ça faisait partie du film, il fallait le faire. Quoi, voilà.
Et justement, on parlait de la distance, mais on n'a pas parlé du temps. Tu as mis combien de temps à le faire?
Le film?
Non, après, ça sera ma question d'après, ça par contre. Parce que c'est pas.
C'est un certain
temps. Mais au niveau de l'Embrunman, tu as mis combien de temps à le faire?
16h43.
Et les meilleurs, ils font?
Ah, les meilleurs, ils mettent un peu moins de 10h.
Ben, 16h, c'est pas mal. 16h43.
Non, mais moi, il y avait pas. C'était l'objectif, c'était parce que ce qu'il faut savoir à Embrun, c'est que il y a des. On en a déjà parlé. Il y a des barrières horaires. Donc déjà, tu te bats contre le temps tout au long de la journée. Tu sais pas si tu vas arriver. Donc déjà, moi, l'objectif, c'était de pouvoir franchir la ligne et, comme on peut le voir sur le film, brandir le t-shirt de finisher. Faut être un peu.
Oui, parce que le t-shirt finisher, tout tu l'as pour... que si tu termines.
Exactement. Bah, exactement. Voilà. Ouais, voilà. Donc si t'as pas franchi la ligne, t'as pas la récompense suprême. Donc quand tu vois que tu
un t-shirt pour un t-shirt,
Je dis pas que. Oui, mais il y a une pièce qui s'appelle la tragédie du Dossard 500 et quelques là. Je sais pas, il faut le voir. C'est pareil, c'est un gars qui s'est lancé un défi pour faire l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, et à la fin, voilà, le mec, il a une doudoune polaire marquée North Face, je sais pas quoi, là, donc voilà, tu fais tout ça pour ça. Alors, il faut savoir une chose, malgré tout, c'est que, et c'est l'intérêt du triathlon aussi, enfin, c'est ce qui est intéressant dans le triathlon, c'est que, quelle que soit la discipline, enfin, l'épreuve à laquelle tu participes, tu es mélangé aux pros. Alors, il n'y a pas beaucoup de professionnels du triathlon, mais tu es mélangé à ces gens-là. Et moi, à l'occasion de ce film, j'ai eu l'occasion de parler avec Hervé Faure, qui est détenteur du record de l'épreuve, qui a tout, et tout ça grâce à Gilles.
C'est vrai qu'il est fort, Hervé.
Toi, tu les enchaînes ce soir.
C'est ça, vraiment. Toi, tu es en forme. Donc, non, mais il a remporté 3 fois l'épreuve, et c'est lui qui détient le record en temps de l'épreuve. 9h40, un truc comme ça.
Ah oui.
Qui est le record qui tient toujours. Donc, c'est cet attrait aussi de cette discipline où on est mélangé avec les professionnels. Mais fait tout ça pour dire que nous, on court pour un t-shirt, mais les premiers, quand même, le premier, il prend 25 000 euros de gain quand même.
Ah oui, c'est pas.
Voilà, c'est pas.
Enfin, c'est une somme hein, qui est importante, mais quand tu vois par rapport à l'effort.
Non, mais si tu divises par le nombre de kilomètres, effectivement, c'est pas.
Quand on voit l'effort, c'est pas trop payé.
Par rapport à d'autres sports.
c'est pas payé.
C'est pas cher ouais. payé, c'est sûr, c'est clair, parce qu'il faut un entraînement de folie comme n'importe quel sportif de haut niveau. Mm. Mais voilà, moi, quand je jouais au foot, j'ai jamais joué contre Platini. Bon, là, j'ai couru avec Marcel Zamora, avec Hervé Faure, James Cunama, voilà.
Avec les meilleurs mondiaux.
Avec les meilleurs mondiaux, et c'est ce qui est un peu, qui fait un peu la spécificité aussi de cette épreuve, quoi.
Donc, l'épreuve, tu l'as mis, donc t'as mis 16 heures. Le film, il a duré combien de temps?
Ouais, le film, il m'a filmé sur la journée.
Non, mais là,
le condensé, il a fait un truc de un peu plus de 7 minutes.
7 minutes?
Voilà. Mais c'est très bien parce que il y a beaucoup de films amateurs qui tournent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et compagnie. Bon, moi, c'est sur Vimeo. Mais 7 minutes, c'est le temps idéal pour pas lasser les gens parce que il y a des films qui durent 20, 25 minutes, 30 minutes, c'est trop long. Voilà. 7 minutes, c'est parfait.
Et tu me parlais justement en début d'émission par rapport à tes objectifs parce que tu m'as dit, j'ai un autre objectif. Le swimrun.
Voilà, exactement, ouais.
Alors, c'est quoi ouais, l'objectif
parce que là, alors, j'étais pas au courant.
Le swimrun, il n'était pas au courant, le président. Ouais. Non, mais je comptais t'en parler ce soir.
Ah, c'est bien sûr, oui.
Non, le swimrun, donc, c'est natation, course à pied.
Ouais.
Alors, il y a plusieurs distances, mais par exemple, bon, je parlais de l'Otilo, c'est 60 km de course à pied, 10 km de nage. Mais ça va être, on va partir pour nager. 3 km, on sort de l'eau, on en court 15, on replonge, etc.
Ah, c'est... tu alternes.
Voilà, c'est pas comme le duathlon. Enfin, le duathlon, tu fais course à pied, vélo, course à pied, là, voilà.
Mais tu t'arrêtes.
Tu fais nage, voilà. Course à pied, nage, course à voilà. pied, sur la distance qu'on voilà. doit faire.
Oui, mais tu... Le rigolo de l'épreuve, c'est que tu nages avec les baskets.
Ah, ah oui.
Et tu cours avec les mêmes baskets. Oui,
tu cours avec les mêmes baskets.
Ouais, ouais, ouais,
et,
ouais.
Ou les pieds, là, ils voilà. vont morfler.
Tu, alors, tu as le droit de nager avec les plaquettes et ouais. un pool boy. Mais bon, alors le pool, tu peux trouver un système, il y a un système pour le mettre de côté, mais si tu nages avec les plaquettes, il faut que tu les gardes pour courir.
Ouais.
Et en général, c'est une course qui se fait en binôme, donc il faut être
t'es accroché, hein, je crois.
Ouais, donc en fait, il voulait demander à Eric de participer ouais. avec lui ce soir.
T'es accroché, ouais, oui. Il vaut mieux s'attacher parce que le but du jeu, c'est d'arriver ensemble. Donc il faut essayer de faire ça avec quelqu'un qui a le même niveau ouais, et pas se perdre dans la natation. Comme
et là, tu vas, c'est quelle course que tu vas faire là? Dans combien de temps?
On a le temps.
Oui, on a 2 minutes.
Il y a le, alors il y a une course qui se prépare dans le lac du Verdon, mais elle est un peu trop tôt à mon goût. Elle est au mois d'avril et c'est 30 km de course à pied, et 4 km de natation. Il y a pas, il y a que cette discipline.
Ah oui, d'accord.
Il y a que cette distance. Et j'ai vu qu'il y en a une qui se fait à Toulon, parce que le triathlon de Toulon ne se fait plus. Ils l'ont transformé en swimrun.
D'accord.
Et il y a, je crois. 2,8 km de natation et une vingtaine en course à pied, donc voilà, c'est un
format.
Et
la date?
Alors ça, c'est le 14 mai.
14 mai.
Ouais.
Bah écoute, est-ce que tu accepterais de venir nous présenter?
Toujours avec, c'est toujours un plaisir de
comme ça, on va pouvoir développer un peu le swimrun.
Voilà.
Bon, alors, par contre, messieurs, dames, je suis désolé, l'émission se termine. En tout cas, merci beaucoup.
On n'a pas vu passer le temps.
Ben, nous non plus. Merci beaucoup, Eric Oli, président du Ventoux Triathlon Club de Carpentras, et Stéphane Mallet, le lauréat du premier festival du film sportif de Vaucluse, 84 nuances de sport. Merci Valérie, merci Alexandre, merci beaucoup Bruno. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va changer de discipline complètement. On fait du badminton.
C'est bien, c'est ça, badminton.
Tout à fait.
Bah oui.
Très intéressant.
Badminton, le club de Carpentras.
Le 102.2.
Bonne soirée, bonne semaine sportive et à la semaine prochaine.
À bientôt. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.